Vous écoutez
RMC.
Vendredi 24 juin,
l'info sur RMC.
7h sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. C'est vendredi, ça c'est la première bonne nouvelle. Et c'est le journal de Céline Kallmann, ça c'est la deuxième bonne nouvelle.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une de ce journal, un témoignage RMC, celui d'une victime présumée de la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou. Elle est visée par deux plaintes pour viol dans le cadre de ses fonctions de gynécologue. Elisabeth Borne confirme la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. La France qui entend remplir ses stocks de gaz à 100% cet automne pour éviter les pénuries. Et puis le président ukrainien Zelensky salue un moment unique et historique. L'Ukraine et la Moldavie obtiennent le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.
Et la une de ce journal, un témoignage RMC.
Celui d'une ancienne patiente de la secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou, gynécologue de profession. Elle est visée par deux plaintes pour viol. Maxime Lévy a rencontré Marie, une autre victime présumée, 21 ans à l'époque des faits. Elle réfléchit, elle aussi, à porter plainte.
Marie découvre en janvier 2016 qu'elle souffre d'endométriose. Elle se renseigne, épluche les noms sur Internet et tombe sur Chrysoula Zakharopoulou, gynécologiste reconnue et spécialiste de la pathologie.
Je suis arrivée dans son cabinet. Dans la salle d'attente, je voyais toutes les dames sortir de consultation en pleurant. Elle m'a appelée pour me consulter moi. Elle était d'une froideur mais impressionnante. Elle m'a fait signe de monter sur la table. Je me suis exécutée, mais en fait, elle a pris aucun tact comme certains gynécologues pourraient dire. Voilà, je vais vous faire un toucher vaginal. Et en plus de ça, 5 minutes avant, donc, je lui ai expliqué que j'avais des pénétrations qui étaient très douloureuses, voire impossibles. Du coup, elle a commencé à faire l'examen gynécologique sans me prévenir. Moi, je l'ai sentie comme très brutale. Ensuite, je me suis mise à pleurer. Parce que forcément, ça m'avait fait mal. Et elle m'a dit, non mais c'est bon, arrêtez de faire votre chochotte. Quand je lui ai demandé si elle arrête, elle ne m'a pas répondu. Elle a continué à faire ce qu'elle était en train de faire. Et pour moi, je l'ai considéré comme un viol. Enfin, on pénètre dans mon corps déjà sans me demander. Surtout que tu vois que je suis en larmes sur la table. Donc au final, j'ai très bien compris en sortant pourquoi tout le monde pleurait. Quoi.
Aujourd'hui, Marie réfléchit à porter plainte contre la secrétaire d'État.
Témoignage RMC recueilli par Maxime Lévy. Romain Cluzel du service politique de RMC est avec nous. Romain, malgré ces accusations, eh bien, la secrétaire d'État est toujours membre du gouvernement.
Oui, hier soir, la première ministre Elisabeth Borne s'est contentée d'affirmer que la justice va faire son travail. De son côté, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, appelle les victimes potentielles à porter plainte. Quant aux deux plaintes déjà déposées contre la secrétaire d'État chargée du développement, Olivia Grégoire tranche. Si ces plaintes devaient donner lieu à d'autres faits de justice, des décisions serait prise, mais sans préciser lesquelles. Pour l'heure, la place de Chrysoula Zakharopoulou au gouvernement n'est donc pas menacée. L'exécutif suit en fait la même ligne de conduite qu'avec Damien Abad, le ministre des Solidarités. Dans son cas, deux plaintes pour viol avaient été classées sans suite.
Romain Cluzel du service politique de RMC. C'était sa première interview depuis le second tour des élections législatives. Elisabeth Borne a assuré hier soir avoir entendu le message des Français. La première ministre va continuer à échanger avec les chefs des groupes politiques aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron est toujours à Bruxelles. Elisabeth Borne s'est dite confiante dans le fait de trouver une issue à la sortie de crise politique. Paul Barcelone.
Plus technicienne que véritable femme politique, Elisabeth Borne ne serait donc pas assez armée pour affronter l'Assemblée nationale.
Enfin, moi, vous savez, ça ne me fait pas peur.
Face aux critiques, la première ministre se voit donc en femme de la situation, même si elle reconnaît qu'une coalition sera difficile à trouver.
Ça ne se fait pas en 3 minutes, ça c'est bien clair. Est-ce que les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale nous disent « non, ça, on n'en veut pas » et on verra texte par texte.
L'exécutif opterait donc pour la stratégie du coup par coup, en tentant de convaincre sur chaque texte des députés de droite et de gauche.
Je pense qu'on peut trouver des majorités avec les partis républicains. On partage des choses, notamment la vision sur un projet européen, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, avec beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'on peut construire des majorités.
Des majorités peut-être pas si larges, puisqu'Elisabeth Borne ne sait pas si elle sollicitera un vote de confiance au Parlement début juillet. Le principal risque étant de voir son gouvernement renversé.
Elisabeth Borne qui a confirmé hier la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. La France annonce aussi vouloir remplir ses stocks de gaz à 100% au 1er novembre avec un objectif très clair. Au moment où la Russie stoppe ses livraisons de gaz à la France, éviter les pénuries dès l'hiver prochain, Antoine Martin.
Oui, d'après la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, la France pourrait se passer du gaz russe si ses importations arrivent en temps et en heure. Aujourd'hui, nos stocks sont remplis à 59%. L'objectif, vous l'avez dit, c'est d'aller à 100% dès cet automne. En ce moment, la Norvège et l'Espagne compensent déjà une partie de nos importations. Mais l'autre solution, c'est d'importer du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar. Là-dessus, la France est en avance dans ce domaine. Nous avons 4 terminaux qui permettent d'acheminer ce gaz dans des ports français. Un 5e doit être construit d'ici septembre 2023 au Havre pour recevoir à lui seul 10% de notre consommation. Pour cet hiver, si l'objectif de remplissage à 100% n'est pas atteint, certaines entreprises devront baisser leur consommation dans l'agroalimentaire, l'automobile ou la métallurgie par exemple. En revanche, aucun rationnement n'est indiqué pour les particuliers.
Antoine Martin en direct sur RMC. 7h05, ce sera long et complexe, mais c'est déjà un premier pas. L'Union européenne accorde le statut de candidat à la Moldavie et l'Ukraine. Écoutez le soulagement cette nuit dans une vidéo sur Instagram du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
C'est pas moi.
C'est notre victoire. Nous avons attendu cette décision pendant 120 jours de guerre et même pendant 30 ans d'indépendance. Peut-être que nous gagnerons cette guerre. Puis nous reconstruirons et nous rejoindrons l'Union européenne. Et ensuite, nous nous reposerons.
L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne se fera pas du jour au lendemain. Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC, nous explique pourquoi.
Le processus est encore extrêmement long car les réelles négociations ne pourront en réalité démarrer qu'une fois le conflit résolu et les frontières de l'Ukraine stabilisées. Et c'est alors que le pays devra se conformer au cahier des charges de l'Union européenne, pas moins de 30 chapitres de négociations. Si la Commission reconnaît que l'Ukraine a déjà fait 70% du chemin grâce à la stabilité de son régime politique et à sa conversion à l'économie de marché, des points sensibles restent à traiter. L'état de droit, la corruption, le blanchiment, la lutte contre les oligarques et la protection des minorités russophones, un processus engagé par exemple en Serbie depuis 13 ans. En cas d'adhésion, dans 15, 20 ou 30 ans, l'Ukraine deviendrait alors le pays le plus grand de l'Union européenne par sa superficie et le 5e pour sa population.
Près de 80 000 cas de Covid en 24 heures. Le nombre de contaminations a triplé en 3 semaines. On y revient en détail dans le journal de Quentin Vinet à 7h30. 7 départements restant en orange pour risque d'orage ce vendredi. Tarn-Aveyron et jusqu'aux Alpes du Nord. Hier soir, Auxerre a été touché. Les rues sont transformées en torrents. Jusqu'à 1000 foyers privés d'électricité. Géraldine Demory, ce mois de juin va battre tous les records.
Ah oui, après la canicule la plus précoce de notre histoire, c'est maintenant un record de foudroiement pour un mois de juin. Près de 180 000 impacts de foudre depuis le début du mois et c'est pas terminé. Alors le record de 172 600 impacts est largement battu. Il datait de juin 1993. On reste quand même assez loin du record absolu hein, qui datait de juillet 2006 avec 374 000 impacts. C'est vraiment entre mai et août hein, qu'on a le plus d'orages. Donc on est bien dans la période. Et si on en a autant en ce moment, c'est parce qu'on a eu de l'air, on a de l'air très chaud qui a été accumulé pendant la canicule, pendant les vagues de chaleur depuis le mois de mai. Et en altitude, on a de l'air froid qui déborde sur la France. C'est ce contraste qui donne des orages très violents avec des grêlons impressionnants et de gros cumuls de pluie.
Merci Géraldine. Patience et courage si vous faites partie des millions de Franciliens qui empruntent les transports en commun. Troisième grève en un mois aujourd'hui, encore une fois lors d'un événement sportif au Stade de France. Ce soir final du top 14 entre Castres et Montpellier. Les conducteurs des Franciliens protestent notamment contre les modifications de planning à la dernière minute.
C'était le journal de Céline Kallmann. Il est 7h07 sur RMC.
RMC chez vous.
RMC chez vous dans les Alpes-Maritimes où les plages sont prises d'assaut. Voilà le sujet ce matin. Pour certaines communes, il a fallu renforcer le dispositif de surveillance. Déjà 4 noyades à déplorer depuis le début du mois dans le département. Et puis à cela s'ajoute un phénomène nouveau, les méduses. Écoutez le reportage à Nice de Florian Chevalet et Romain Houg.
Après une matinée un peu pluvieuse, enfin, le soleil pointe le bout de son nez dans le ciel niçois. Voilà évidemment de quoi ravir les vacanciers qui piquent une tête dans la mer Azur. Mais tous ne sont pas tranquilles. Cette touriste norvégienne garde toujours dans un coin de la tête le risque de noyade.
Là, je suis avec 3 ados de 17 ans, dont 2 qui ne sont pas à moi. Et puis j'ai ma fille de 10 ans. Je pense que c'est assez calme aujourd'hui, mais je vais surveiller. Je ne suis pas vraiment en vacances, quoi. C'est moi maître nageur et tout ce qui va avec.
À quelques serviettes de là, pas de quoi affoler Mathias.
J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des enfants qui savent nager. Donc il y a toujours un risque, mais là il est mesuré, on va dire. Si mon fils savait pas nager, je pense que je vous aurais répondu peut-être différemment.
D'autant que son fils Adam, du haut de ses 11 ans, a le sens des responsabilités. Il ne lâche pas d'un œil son petit frère de 6 ans.
Juste, j'ai peur pour mon frère des fois.
Pourquoi ?
Bah, parce que j'ai peur qu'il se noie, du coup je reste tout le temps avec lui.
C'est le vrai grand frère, quoi.
Oui.
Et il a bien raison, car rien que depuis le début du mois, 4 personnes ont perdu la vie en mer dans le département, noyées. Le capitaine Dominique Delin, pompier responsable de la surveillance des plages des Alpes-Maritimes, sent bien qu'il va falloir redoubler de vigilance.
En fait, les gens arrivent, pour certains, des vacanciers. Ils se sont pas entraînés pendant quelques temps. Donc il y a des débuts de noyade, hein, bien sûr, soit par un manque d'entraînement. Il y en a qui n'ont pas la condition physique. Je pense que les gens, en fait, ils ont envie de un peu de liberté. Il y a eu une sécheresse en début de mois de juin. Donc voilà un petit peu, malheureusement, ce qui s'est passé au niveau des décès.
En plus des noyades, un autre sujet inquiète et occupe les pompiers du département, la multiplication des méduses. Malheureusement, difficile de lutter contre cette invasion, selon le lieutenant Stéphane Diolon, responsable des baignades de Nice.
Il y a des journées où on a 100, 150 dans les grosses journées piqûres. Et malheureusement, quand ils se font piquer, bon, ils viennent nous voir au poste de secours et on leur a appelé qu'une crème apaisante. Même ça reste quand même très douloureux dans les premières heures.
Urticaire, gonflement ou allergie sont le lot d'une piqûre de méduses, mais ça n'effraie pas tout le monde. Mariam et sa sœur, elles, les domptent.
On en a attrapé. On a pris un seau et ma sœur, elle les a attrapés. Et franchement, si on se fait mal avec une méduse, on prend du sable.
En cas de piqûre, oubliez les remèdes de grand-mère, surtout ne pas la rincer à l'eau douce et se rendre au poste de secours le plus proche.
Reportage donc de Romain Houg et Florian Chevalet. Prudence sur les plages, il est 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le témoin du jour, un restaurateur de Poitiers menacé de mort car l'une de ses clientes s'est maquillée le visage en noir. Son témoignage dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-8h30, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC, très bon réveil à tous.
Le témoin du jour.
Le témoin du jour, c'est vous, Michael Taylor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant d'un restaurant à Poitiers, un restaurant italien à Poitiers. Et votre histoire, on a voulu la raconter ce matin parce qu'elle est sans doute le symbole des dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter, vous qui êtes donc gérant de restaurant, pourquoi tout d'un coup, plus personne ne vient dans votre restaurant? Qu'est-ce qui s'est passé le 18 mai dernier?
En fait, très simplement, des clients réguliers m'ont fait une réservation en disant qu'ils allaient venir costumés. Et une personne parmi le groupe s'est déguisée en martiniquaise avec le visage grimé. Et tout d'un coup, tout s'était très bien passé jusqu'au moment où il y a eu une altercation avec une jeune fille dans la rue.
Oui.
Et je suis à ce moment-là, c'était à l'intérieur du restaurant, je suis sorti pour parler à la jeune fille.
Oui.
Pour lui expliquer la situation. Je pensais que tout s'était bien passé, mais jusqu'au moment où une vidéo a été filmée, je n'ai pas vu la personne qui a filmé cette vidéo. Et quand je suis rentré, le seul problème est que la vidéo avait été mise sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu un déferlement de haine en très très peu de temps.
Et avec un appel au boycott de votre restaurant, qui a été effectivement suivi de faits, menaces de mort, boycott, vous avez d'ailleurs porté plainte. Et le grand paradoxe aujourd'hui, finalement, Michael Taylor, c'est que vous êtes considérez-vous comme raciste parce que cette cliente elle-même s'est déguisée, en fait c'est ce qu'on appelle les blackface, sur votre terrasse, dans votre restaurant. Et aujourd'hui c'est SOS Racisme qui vous défend en disant attention, on est en train de totalement se tromper de cible. SOS Racisme qui dit de vous que vous n'êtes qu'une victime collatérale. Je cite donc le responsable local d'SOS Racisme, le restaurateur a été mis devant le fait accompli. C'est une victime collatérale, c'est la personne qui fait le blackface, qui a semé le trouble. Et donc, pas question de vous boycotter, vous. Est-ce que vos clients réguliers, d'abord, sur le moment, vous étiez vous-même, vous dites, tout s'est bien passé sur le moment jusqu'à cette altercation, avec juste une personne qui passait dans la rue, qui a interpellé votre cliente?
Tout à fait. En effet, parce qu'en fait, tout le groupe était déguisé. Et ils ont été un peu partout à Poitiers avant de venir.
C'était quoi? C'était un enterrement de vie de jeune fille?
C'est tout à fait ça, voilà. C'était ça. Et en fait, ils ont été partout à Poitiers et personne ne les a interpellés jusqu'au moment où ils sont venus chez moi. C'est là où il y a eu le problème. Et question, j'ai encore des clients fidèles qui viennent, mais en tout, je peux dire que certaines personnes sont venues me témoigner leur soutien, mais en disant qu'ils ne voulaient pas être vus avec moi.
Ah oui, donc vous êtes devenu persona non grata. Michael Taylor, dites-nous, concrètement, vous avez reçu des menaces de mort, votre restaurant a été tagué, c'est ça, hein?
C'est bien ça, la devanture.
Qu'est-ce qui s'est passé sur la devanture?
Il est juste marqué un tag raciste.
Raciste,
tout simplement.
Sur votre devanture. Vous recevez aussi des menaces par téléphone?
Par téléphone, par mail, en disant que le feu, ça brûle très vite. On veut m'égorger sur la place publique, par exemple.
Vous avez donc fini par porter plainte, et je le disais, SOS Racisme, aujourd'hui, vous soutient, vous arrivez à dormir, votre chiffre d'affaires a chuté?
Dormir très difficilement, mon chiffre d'affaires a chuté de 80%.
80%, vous travaillez avec votre mère, hein, c'est bien ça, hein,
c'est bien
Michael.
Ça, on n'est que deux.
Vous êtes tous les deux, c'est votre mère qui est en cuisine et vous qui êtes en salle?
Tout à fait.
Michael, que vous disent l'association des commerçants locaux? Est-ce qu'ils vous apportent leur soutien? Est-ce que,
On va dire qu'ils ont commencé à m'apporter un certain soutien, mais qui a été d'une durée très courte. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai plus de nouvelles. Et les restaurateurs, aussi bien les restaurateurs que les commerçants de Poitiers, ne me soutiennent pas du tout. C'est plutôt au contraire, ils m'évitent.
Et la cliente, pardon d'y revenir, mais la cliente elle-même, qui était une de vos clientes régulières, est-ce qu'elle est consciente de du poids de ce qu'elle a fait, de ce que ça a fait peser sur vous, des conséquences que vous en payez aujourd'hui?
Non, pas du tout, en sachant que c'est une promotion de la police municipale. Elle, tout ce qu'elle m'a fait, elle m'a envoyé un message en me disant... On va faire en sorte que ta note remonte. J'ai demandé à tous mes amis de faire en conséquence. Et sinon, ils ont tous dit, il faut pas dire que c'était nous. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Elle n'a pas pris, en fait, c'est ce que je lui reproche, en fait.
La mesure.
C'est qu'elle a... Oh, la mesure, et je reproche le fait de ne pas venir avec moi pour expliquer comment tout s'est passé.
Je voudrais juste que vous compreniez, vous dites c'est une promotion, c'est-à-dire en fait c'était la cliente déguisée, elle est elle-même policière?
Elle devait, en fait c'était une formation pour devenir, elle avait 3 semaines encore de stage.
D'accord.
Et après elle allait devenir policière municipale, mais pas sur Poitiers, plutôt sur Bordeaux.
D'accord, ok. Et c'est elle qui vous a entraîné dans cette situation insupportable.
Sans aucun soutien, c'est ça.
Elle n'assume pas, et elle voulait même pas que vous disiez qu'elle était en train de devenir policière.
C'est ça.
D'accord, bon, bah écoutez, en tout cas,
je suis la seule entité qu'on peut contacter. J'ai un restaurant, un numéro de téléphone, un email.
Ouais.
Et c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est moi qui prends.
C'est vous qui prenez. C'est vous qui prenez et non pas elle. Michael Taylor, vous dormez la nuit? Vous êtes suivi un peu?
Je dors très peu et on m'a conseillé de me faire suivre par une psychologue, chose que j'ai faite. Et ça me fait du bien, mais malheureusement pas assez. C'est-à-dire que ça reste très compliqué.
Ouais, on l'entend. Michael Taylor, merci en tout cas de votre témoignage. C'est aussi la dérive et le fait de jeter en opprobre. Mais en même temps, je trouve ça assez frappant quand même ce que vous dites sur la cliente elle-même, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'assume pas. Michael Taylor, merci. Je rappelle que vous êtes donc le gérant de ce restaurant sans les nommer, qui est donc à Poitiers. Il est 7h19 sur RMC.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.
À suivre dans 20 minutes, l'invité du jour ce matin, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
Et on parlera notamment de la question de la future aide pour les carburants. Elle nous dira quelle sera la forme de cette future aide. Et y aura-t-il assez de gaz cet hiver? On craint de gros coups de froid. Mais avant cela, Pierrick, coup de fatigue sur les politiques.
Mais ça commence à se voir et à s'entendre qu'ils ont besoin de vacances, les politiques.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h23 sur RMC. Bon réveil à tous.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, ceux qui même prendront le train, ou pas, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans les trains cet été.
Ah, c'est un été complètement dingue pour la SNCF qui s'annonce. Ça va être l'été de tous les records. 8 millions de billets ont déjà été vendus pour juillet et août, dont 6,5 pour le TGV. C'est 10% de plus qu'en 2019 pour les TGV et c'est même 20% de plus si on regarde uniquement les TER, les trains régionaux. En gros, c'est simple, la SNCF va tourner à 100% de ses capacités de transport cet été. Tous les trains seront en circulation, 800 TGV et intercités, 14 000 trains régionaux par jour. Il n'y a plus un train en réserve. J'espère qu'il n'y aura pas trop de panne.
Il n'y a plus de trains en réserve, mais il n'y a plus aussi beaucoup de tickets en réserve. Ça, on va en reparler. Mais engouement pour le train, malgré des prix en très très forte hausse.
Alors, c'est...
Non mais on a tous constaté, c'est monstrueux.
Alors, c'est assez spectaculaire. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bataille aujourd'hui sur l'évolution des prix de la SNCF. Vous avez quand même l'INSEE qui vous dit les prix des billets de train sont en hausse de 13% sur un an. Et vous avez la SNCF qui vous dit mais non, pas du tout. Nos prix, ils sont en baisse de 7% sur un an.
Ça, moi, je comprends pas.
Alors, il y a des différences de méthode. En fait, ce que fait l'INSEE, c'est qu'elle regarde les prix qu'il y a dans la vitrine. Mais elle regarde tous les prix qu'il y a dans la vitrine. Tous les jours, elle recueille les prix pour 250 trajets à 4 échéances différentes. Hein. Elle regarde pour 2 jours, pour 10 jours, pour 30 jours,
dans un
etc.
Mois.
Elle prend deux profils de consommateurs, ceux qui ont des réductions, ceux qui n'ont pas de réduction. Tout ça, évidemment, pour essayer de déceler, vous savez, les variations de prix liées à ce fameux sorcier de la fabrication des prix, le yield management. Vous savez, c'est un logiciel, c'est un algorithme absolument infernal qui fait varier les prix en permanence en fonction de l'offre et de la demande, ce qui fait que vous ne payez jamais le même prix en fonction du moment où vous achetez votre billet. Les écarts, c'est quand même de 1 à 10 sur le prix des billets. Donc ça, c'est ce que fait l'INSEE, ce qui fait quand même 10 000 relevés de prix par jour. En revanche, la SNCF, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend le chiffre d'affaires sur une période rapportée au nombre de billets vendus. Donc, le chiffre d'affaires, on divise par le nombre. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez c'est pour ça que j'appelle ça la vitrine, les prix de calculés par l'INSEE, c'est que quand vous allez sur le site de la SNCF, vous regardez les prix qui sont proposés, mais c'est pas forcément le prix auquel vous achetez votre billet. Vous allez peut-être chercher des billets moins chers. Donc, la vérité, elle est peut-être entre les deux, sauf que ça faciliterait les choses si, par exemple, ce que ne fait pas la SNCF, elle nous disait quel est le prix du billet moyen. Or ça, c'est une information qu'elle garde pour elle.
La SNCF qui promet avoir rajouté 500 000 places supplémentaires ces derniers jours. Comment on fait pour voyager déjà et puis au meilleur prix?
Alors, voyager, il y a une astuce, c'est que on s'aperçoit avec l'algorithme de la SNCF que quand vous avez des cartes de réduction, on ne vous propose pas toujours les mêmes trains que quand vous n'en avez pas. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous avez des cartes de réduction, il y a des trains qui ne vous sont pas proposés quand vous cherchez. Et si, miraculeusement, vous enlevez la carte de réduction, bah vous verrez qu'il y a d'autres trains.
Du coup, ce sera plus cher, enfin,
au moins vous aurez un train. Et puis alors quand même, hein, dans ce monde très compliqué, il y a quand même quelques vieux fondamentaux à rappeler. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, du billet congé annuel? Le billet congé annuel, tout le monde y a droit pour un grand trajet une fois par an. Le billet congé annuel. Alors, moi qui ai vendu toute mon adolescence des billets de train à la gare Montparnasse, le billet congé annuel, c'est un billet que vous remplissez. 25% de réduction, 50% de réduction si vous en payez plus de la moitié avec des chèques vacances. Et vous y avez droit une fois par an pour un trajet supérieur à 200 km pour vous et votre famille. Donc ça, c'est un vieux truc, ça existe depuis des années et
mais
des années.
Mais Géraldine, vous saviez ça?
Vous avez toutes les promos.
Non mais moi, j'ai quand même toujours l'impression qu'ils font tout pour pas qu'on sache qu'il y a des promos ou qu'il y a des réductions. Ça fait 6 mois que je bataille pour renouveler ma carte famille nombreuse. Franchement, je vous assure, c'est un truc.
C'est pas
de
un complot, je pense.
C'est un truc de fou. Vous appelez, il manque toujours une pièce, il y a toujours un truc qui fonctionne pas. J'ai quand même pas l'impression qu'ils fassent tout pour qu'on ait des réductions.
Non,
si on est tout à fait honnête.
Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, toute façon, vous n'avez aucune visibilité, puisque, par définition, vous n'aurez jamais payé le même prix que votre voisin, et d'un jour sur l'autre, vous aurez des prix.
Les trains qui sont absolument pris d'assaut, et pourtant, il y en a qui auraient bien besoin de prendre le train et d'aller prendre des vacances, c'est les politiques.
Belle transition.
Et Charles en campagne.
Pierrick, ce matin, après 2 campagnes électorales et en pleine crise du pouvoir, nos politiques seraient-ils fatigués?
Vivement les vacances, parce que ça sent un peu le surmenage, chez certains, et quand on est fatigué, eh bien, voilà ce que ça donne. Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Chez nos confrères de France Info hier matin.
Elisabeth Borne digère
peut-être cet échec législatif.
Un malheureux lapsus, c'est vrai que la digestion de ces législatives ne doit pas être simple pour Elisabeth Borne, mais même pour les grands vainqueurs de cette élection au Rassemblement National, la fatigue se fait sentir. Jordan Bardella, deux heures plus tard, hier matin, devant les journalistes.
Nos députés sont des élus locaux enracinés. Le plus âgé, José González, député des Bouches-du-Rhône. Excusez-moi. Nos députés maintiendront tout au long de leur mandat ce lien étroit avec le peuple qu'ils ont noué au cours de la campagne.
Alors en fait, Jordan Bardella se trompe de José. Au lieu de citer José González élu dimanche, il cite José Évrard, député RN qui n'est plus de ce monde. Il est mort en janvier dernier. Gros malaise, mais en tout cas ça fait rire le président par intérim du Rassemblement National. À gauche, Jean-Luc Mélenchon lui aussi a commis un autre lapsus la semaine dernière qui s'est vite transformé en polémique.
S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien.
On dirait du Galabru. Non mais c'est vrai, quand on entend la voix, je trouve qu'on dirait presque du Galabru, sauf que c'était effectivement beaucoup moins drôle.
Et oui, le leader insoumis voulait dire fâché, pas facho, et non facho, pas fâché. Il a dû préciser sa pensée quelques heures plus tard sur Twitter pour éteindre la polémique. En fait, il aurait dû s'inspirer, Jean-Luc Mélenchon, de son disciple, François Ruffin, pour ne pas que sa langue le fourche. Lui, il répète la même chose à longueur d'interview.
Ah oui, je l'ai vu.
Moi, comment j'ai fait campagne? J'ai fait campagne en demandant aux gens, est-ce que votre salaire, il a triplé?
Comment j'ai fait ma campagne, moi? J'ai fait ma campagne en demandant, mais est-ce que vous, vos salaires, ils ont triplé?
Les gens, ils me prenaient pas en fou, mais pourquoi vous me demandez ça?
Les gens, ils rigolaient. Ils disaient, mais les fous, pourquoi ils me demandent ça?
Parce que les grandes fortunes, les cinq premières fortunes françaises, sous Macron, elles ont triplé.
Pourquoi? Parce que les cinq premières fortunes, sous Macron, elles ont triplé.
Voilà. Donc pour éviter les lapsus et éviter que la fatigue se voit.
J'avais pas besoin de l'interviewer hier, en fait. J'aurais dû juste mettre la cassette.
Exactement. Vous prenez cette interview à vous de la
Mais à chaque
veille.
Fois, il prend l'air très inspiré quand même, hein. Quand il joue son propre rôle.
C'est une inspiration calculée.
Il est 7h30 dans un instant, la météo et le journal. 7h30 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à vous tous. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'histoire qui se répète, les contaminations au Covid qui triplent en 3 semaines. Le gouvernement appelle à nouveau au respect des gestes barrières. Le paradoxe aux États-Unis. Ce matin, malgré des tueries à répétition, la Cour suprême annule une vieille loi anti-armes à New York. Et encore une grève dans les RER en région parisienne. Un jour de match au Stade de France. Les syndicats assument ce matin sur RMC.
Le gouvernement nous recommande de respecter les gestes barrières.
Alors on se teste davantage, mais ça n'explique pas tout. Encore 80 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. La moyenne quotidienne a triplé en 3 semaines. Et écoutez ce que dit la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, toujours ministre malgré sa défaite aux législatives.
L'idée, c'est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l'instant. Mais nous surveillons évidemment chaque jour cette situation pour reprendre d'autres mesures s'il fallait et s'il en était besoin.
Voilà, le gouvernement qui alerte à nouveau donc sur le respect des gestes barrières qui ont un peu disparu ces temps-ci. C'est vrai, la preuve à Paris avec Victor Joannin et Nicolas Traîneau pour RMC.
Au programme d'Éloine et Mathieu, soleil et apéro sur les quais de Seine. Les deux étudiants l'admettent, les gestes barrières sont oubliés et la peur du virus aussi.
Ben, on se fait la bise, ça fait 2 ans qu'il est là, on se voit tous les jours entre nous, on est 15 ou 20 sur les quais tous les jours. Je vais pas m'arrêter de vivre alors que ça fait 2 ans qu'il est là.
Ça fait peur, mais... Sans plus, de toute façon, les gens ils feront pas plus attention et ça changera pas le mode de vie qu'on a actuellement.
Sous sa tente, placée devant la pharmacie, Sandrine prélève environ 30% de tests positifs en plus depuis une dizaine de jours. Et cette infirmière s'attend à ce que les prochaines semaines soient chargées.
Il fait beau et puis nous sommes en fin d'année, donc il y a eu la fête de la musique, les gens se rassemblent.
Et même s'il n'y a pas lieu de s'affoler, prudence, prévient le docteur Jean-Paul Ortiz, cette 7e vague ne fait que commencer.
Il y a une nouvelle poussée de contamination Covid qui est probablement dû à ce variant BA5 qui est extrêmement contagieux, qui en général donne des formes tout à fait bénignes. Mais il faut quand même être prudent pour les personnes âgées et immunodéprimées.
D'autant que parmi ces personnes à risque, seule une petite minorité a reçu une 4e dose et dispose donc d'une protection vaccinale optimale.
Et ne manquez pas toutes les précisions de mon invité à 8h30, ce sera le professeur Gilles Pialoux, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon.
Elisabeth Borne ne se pose pas de questions à Matignon. Voilà la réponse de la Première Ministre à ceux qui la critiquent, y compris au sein de la majorité après les législatives. Elisabeth Borne qui annonce la prolongation jusqu'à la fin de l'année du bouclier tarifaire sur le gaz dans le contexte de la guerre en Ukraine. l'Ukraine. 4 mois, tiens, que la guerre a commencé ce matin, et moment historique salué par le président ukrainien. Les 27 réunis en sommet européen hier soir ont accordé à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, un processus qui va prendre des années, voire des dizaines d'années. Aux États-Unis, je vous le disais, le président Joe Biden est en colère. Il le fait savoir après la décision de la Cour suprême. C'était hier soir, Cour suprême qui a invalidé une loi anti-armes dans l'État de New York, malgré les tueries qui ne s'arrêtent jamais outre-Atlantique. Pauline Simonet, vous êtes la correspondante de RMC aux États-Unis. Expliquez-nous ce que ça va changer.
L'impact de l'arrêt de la Cour suprême, c'est que plus aucun État ne pourra interdire quiconque de sortir de chez lui avec son arme en bandoulière. Alors que jusqu'à présent, certes, la Constitution, elle garantit à tous le droit de détenir une arme à la maison, mais les villes et les États étaient jusqu'ici libres d'encadrer le port d'armes. Et donc, dans plusieurs États classés à gauche, New York, la Californie ou encore ici, à Washington, tout le monde ne peut pas se balader avec son arme, c'est très encadré, il faut un permis spécial. Mais comme la Cour vient d'annuler cette loi de New York, vieille de plus de 100 ans, ça va faire jurisprudence, et toutes les autres lois qui limitent le port d'armes pourraient à leur tour être invalidées.
Il est 7h35 et on parle du tourisme, du surtourisme précisément, ce matin sur RMC, puisqu'à partir de dimanche, il faudra une réservation pour accéder à la calanque de Sugiton à Marseille. C'est une des plus connues de France, une des plus fréquentées aussi. Maintenant, ce sera 400 personnes maximum au lieu de 2500 pendant l'été. Chaque jour, c'est une première qui divise. Écoutez avec Clémence Fournival dans les calanques pour RMC.
Sur le chemin pour descendre à la calanque de Sugiton, l'histoire des quotas divise. Il y a ceux qui sont pour.
Je trouve que c'est une bonne chose, surtout avec le nombre de personnes qui viennent dans les calanques.
C'est une bonne idée si l'objectif est de préserver le parc naturel, autant que ça soit mis en place.
Et ceux qui ne comprennent pas trop.
C'est une contrainte en plus, effectivement. On a des contraintes sur la route, on a des contraintes dans la vie active, on a des contraintes tout partout. Et quand on s'échappe ici dans la nature, on n'a plus envie de contraintes.
Ça enlève toute la beauté de l'instant, quoi. C'est sûr que c'est prévoir, c'est voilà, préméditer chaque chose. On perd un peu de l'authenticité, quoi.
Dimanche, pour la première fois, seulement 400 personnes pourront profiter des eaux cristallines, comme nous l'explique Zachary Bruyas, en charge de la communication du parc.
Il y a 400 places qui sont réservables. Il faut aller sur Internet, c'est très simple, il faut rentrer ses coordonnées. Vous allez recevoir un QR code qu'il faudra présenter ici. Il y a deux agents qui vont les vérifier. Et en amont aussi, pour les gens qui n'auraient pas eu l'information, il y a des panneaux, il y aura du monde aussi pour vous informer de la mesure.
L'année dernière, la calanque de Sugiton a accueilli jusqu'à 2500 personnes par jour.
On vit le mois de juin le plus orageux de l'histoire, hein, depuis le début des relevés météo en 1989. 180 000 impacts de foudre quasiment enregistrés et 7 départements de l'Est et du Sud toujours en vigilance orange, nous répète Géraldine ce matin. C'est encore une journée de grève, hein, pour les salaires et les conditions de travail dans les RER en région parisienne. 3e grève en un mois, à chaque fois un jour de match au Stade de France. Aujourd'hui, ça tombe sur la finale de Top 14 de rugby. Et c'est évidemment pas un hasard, reconnaît Fabien Villedieu du syndicat Sudrail RATP.
Je pense que je serais malhonnête si je vous disais que c'est l'effet du hasard, hein. Même si la grève concerne pas uniquement des lignes qui desservent le Stade de France, hein. Pour autant, c'est vrai que ça a en partie joué. Voilà, la grève, c'est un rapport de force. Pour mettre toutes les chances de votre côté pour gagner sur vos revendications, il faut qu'il soit le plus impactant possible. Si vous faites une grève le dimanche soir ou lundi matin, bah, vous pouvez faire grève très longtemps. Et pour débloquer la situation, il faut taper très fort. Et c'est pour ça qu'il y a des grèves sur ce type d'événement. C'est fait partie du rapport de force de la grève.
Castres-Montpellier, ce sera la finale. Donc, du top 14 de rugby, premier et deuxième de la saison régulière pour succéder à Toulouse, 20h45 sur RMC. On saura qui soulève le bouclier de Brennus, finale qui sera perturbée par la grève dans le RER et qui, pour la petite histoire, avait été décalée au vendredi au lieu du samedi à cause des travaux justement ce week-end dans le RER. Ça tombe.
Décidément, le Quintet Quentin, c'est à Vincennes.
20h15, RMC Découverte, semi-nocturne, le 13, le 8, les pronos de la Dream Team ce matin sur RMC. Le 13 en favori, un télo de Chenu, le 8 en outsider, une victime du noyer.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Quelle forme prendra la future aide pour le carburant? Aurons-nous assez de gaz cet hiver en cas de gros coup de froid? La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, est l'invitée du jour dans un instant sur RMC.
A tout de suite.
RMC, 6h-8h30, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h40 sur RMC, très bon réveil à tous.
L'invité du jour.
C'est vous, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. On va parler carburant, on va parler gaz. C'est question de prix, bien sûr, mais je voudrais qu'on commence immédiatement avec cette question du carburant, parce que de nombreux auditeurs qui nous écoutent sur RMC, au moment où on se parle, sont en voiture. Les prix du carburant tournent autour des 2 euros le litre désormais. Qui pourra bénéficier d'une aide après le mois d'août, quand la ristourne des 18 centimes sera arrivée à échéance?
C'est ce qui va faire l'objet d'une concertation. Je crois que nous avons besoin, avec Bruno Le Maire, avec la Première Ministre, d'entendre les organisations syndicales, d'entendre les représentants des entreprises, parce qu'ils ont besoin que leurs salariés puissent aller travailler sans écorner leur pouvoir d'achat. Et c'est une discussion que nous devons avoir collectivement, en intégrant d'abord les autres mesures de pouvoir d'achat. Je pense par exemple à l'augmentation des retraites. Alors, je vous parle des organisations syndicales, mais c'est une concertation plus large. Les autres mesures, augmentation des retraites, augmentation des pensions de reversion, augmentation là, du point d'indice. Si, parce que c'est le pouvoir d'achat, c'est une logique globale. C'est-à-dire, si vous avez plus de revenus, vous pouvez effectivement faire face à cette inflation. Cette inflation, elle est liée à l'augmentation, notamment du prix du carburant.
Agnès Pannier-Runacher, c'est-à-dire que il y avait d'un côté, en effet, l'aide, notamment, on avait évoqué un chèque alimentaire qui viendrait peut-être dans un second temps, mais d'abord un chèque tout simplement inflation, une sorte de prime inflation pour les plus modestes qui arriverait dès cet été. On le sait bien qu'il va y avoir la réindexation des pensions de retraite. Mais au fond, est-ce qu'il n'y aura pas de réponse spécifique sur le carburant? C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire?
Pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour poser la bonne réponse sur le carburant, il faut aussi intégrer tous les autres moyens par lesquels nous allons permettre aux Français d'augmenter leur pouvoir d'achat. Il serait stupide de traiter chaque sujet de manière déconnectée. Le pouvoir d'achat des Français, c'est au fond ce qu'ils ont sur leur compte en banque qui leur permet de faire face à des augmentations.
J'ai bien compris. Donc, voilà. Par exemple, la question des aides au carburant, c'est vrai que Bruno Le Maire avait évoqué lui-même une aide gros rouleur, c'est-à-dire une aide qui soit davantage ciblée. Là, actuellement, la ristourne de 18 centimes, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire
exactement.
Tous ceux qui l'utilisent ponctuellement ou qui l'utilisent comme gros rouleur. L'idée, si j'avais bien compris, et c'est là-dessus vraiment que je vous interroge ce matin, c'est est-ce qu'il y aura une aide davantage ciblée à partir de septembre? Est-ce qu'on peut imaginer une aide qui soit ciblé sur les gros rouleurs, encore une fois?
C'est tout à fait la discussion qui est sur la table. C'est de savoir si nous faisons cette aide gros rouleur, si nous prolongeons les 18 centimes, si nous éteignons les 18 centimes, de quelle manière, à quelle date. Et je rappelle aussi que vous avez le barème kilométrique. Le barème kilométrique, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même 2,5 millions de ménages, les infirmières libérales, les taxis, les VTC, qui disposent de ce barème kilométrique.
Mais vous n'avez pas tranché.
Augmenté. À ce stade, nous sommes au stade de la discussion, on a différents scénarios sur la table. Un scénario, comme vous l'indiquez, gros rouleur, avec l'objectif de pouvoir très vite payer, parce que c'est un des enjeux, c'est-à-dire mettre en place un dispositif gros rouleur.
Il faut immédiat, quoi.
Il faut que dès septembre ou octobre, vous puissiez avoir l'argent sur votre compte en banque. Parce que si on vous dit, c'est super, il y a un dispositif gros rouleur, mais c'est en mars ou en avril prochain, je pense que ça ne va pas correspondre aux besoins des Français.
J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière vos mots, Agnès Pannier-Runacher. Ce que je comprends, c'est que en fait, vous ne voudriez pas annoncer, comme a été annoncé par exemple le chèque alimentation, et en fait, ensuite, vous rendre compte que techniquement, c'est pas possible. Ce qui a été le cas pour le chèque alimentaire. On a annoncé un chèque alimentaire avec même des précisions assez importantes sur la manière dont il pourrait être dépensé. Il y avait cette idée qu'il soit dépensé uniquement sur des produits, par exemple, locaux. Et finalement, le gouvernement était obligé d'y renoncer à court terme, se rendant compte que c'était techniquement trop compliqué de cibler spécifiquement un chèque alimentaire.
Ce qui est clair, c'est que
c'est ça le risque.
Exactement. Les Français, ils veulent des réponses qui soient claires. Quand on annonce une mesure, elle doit pouvoir être mise en œuvre dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent, mais pas 6 mois après.
Nous achetons 17% de notre gaz à la Russie. Est-ce qu'on peut faire sans?
Aujourd'hui, on pourrait faire sans à, je dirais, conditions de température et de pression égales. C'est-à-dire, en remplissant nos stockages, et vous avez vu qu'avec Elisabeth Borne, nous avons annoncé un objectif de remplissage de nos stockages stratégiques qui est supérieur à celui qui est actuellement prévu par la réglementation. C'est-à-dire, nous passons de 85% à 100% de remplissage de nos stockages stratégique et nous garantissons les acheteurs de gaz sur le prix auxquels ils vont acheter le gaz naturel.
Là, vous parlez des particuliers. Vous garantissez aux particuliers?
Non, sur les acheteurs. Pour remplir les stockages de gaz stratégiques, vous avez Engie, Total, qui achète du gaz naturel à un prix très élevé. On leur dit, continuez à acheter à ce prix très élevé parce que nous vous garantissons le prix lorsque vous le remettrez sur le marché. Si, par hasard, ce prix est inférieur, nous couvrirons la différence.
C'est une sorte de garantie que l'État donne aux acheteurs de gaz.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, tel que nous récupérons du gaz naturel liquéfié, nous sommes en train de nous désensibiliser, on va dire, du gaz russe. Et nous allons installer, ça c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2023, fin d'année 2023, un terminal méthanier flottant pour avoir une capacité additionnelle de traitement du gaz naturel liquéfié. Nous avons déjà deux terminaux qui fonctionnent très fortement.
Je voudrais quand même comprendre une chose, Agnès Pannier-Runacher. Quand vous dites on va remplir nos cuves, en gros, c'est une sorte de réserve stratégique pour que, en cas de coup dur, on puisse puiser au moins un temps dans cette réserve. Vous dites aujourd'hui, elle est à hauteur de 85% remplie, cette réserve.
Non, elle se remplit au fil de l'eau. Elle est consommée l'hiver et elle se remplit l'été.
On la re-remplit pour la garder.
Et on la remplit aujourd'hui plus rapidement qu'on ne le faisait les années antérieures.
Mais est-ce que ça... À qui on l'achète, là, en ce moment?
On achète essentiellement du gaz naturel liquéfié. On achète aux Norvégiens, on achète aux Algériens, on achète aux Espagnols, qui, aujourd'hui, sont capables de...
En ce moment-là, pour faire monter...
ce que je vous dis. Aux Américains, aux Canadiens.
Mais pas aux Russes.
Les Russes, eux, continuent à livrer dans le cadre de leur contrat long terme.
Mais là, vous n'avez pas augmenté, en attendant, dans la perspective d'en acheter moins, vous n'avez pas augmenté vos commandes russes?
Non, on n'a pas augmenté nos commandes russes parce que nous avons des contrats long terme. Et c'est ces contrats que nous utilisons. Donc ces contrats, il n'y a pas du supplémentaire. Les Russes ont arrêté de vendre du gaz naturel sur le marché libre. Ils continuent à vendre du gaz naturel.
À honorer leurs commandes qui étaient déjà prévues. Si je vous pose cette question quand même, Madame la Ministre, c'est parce que l'Allemagne, on se rend compte du paradoxe fou, c'est que l'Allemagne n'a jamais autant acheté, paradoxalement, de gaz aux Russes qu'au tout début de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que justement, dans la perspective et dans l'angoisse de se retrouver un jour manquant, eh ben, ils ont re-rempli dans l'urgence leur cuve de gaz en l'achetant aux Russes.
Et parce que c'est un des fournisseurs, effectivement, dans le cadre de leur contrat long terme.
Vous m'assurez ce matin, Madame la Ministre, que nous n'avons pas fait la même chose.
Nous appliquons nos contrats long terme.
Nous n'avons pas dit, nous allons cesser d'acheter du gaz russe, tout en réalité, sur le moment, acheter plus de gaz russe. Non,
ce qui se passe...
Je voudrais comprendre, parce que quand on découvre ça de l'Allemagne, ça paraît fou.
Pas nécessairement, hein, parce que justement, l'enjeu, c'est de pouvoir se désensibiliser le plus rapidement possible du gaz russe.
Du coup, sur le moment, on donne beaucoup plus d'argent aux Russes, mais tout en disant on en donnera plus demain.
Surtout, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec le prix plus élevé du gaz, les Russes, aujourd'hui, gagnent plus d'argent. Et c'est pareil pour le carburant. Mmh. Et c'est bien tout l'enjeu de se désensibiliser de l'achat de gaz et du carburant vis-à-vis des Russes. C'est que avec des quantités plus petites livrées, ils gagnent plus d'argent parce que les prix ont énormément augmenté. Donc tout l'enjeu, c'est de réduire cette dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe. Après, vous le savez comme moi, la France a une dépendance à hauteur de 17%, l'Allemagne c'est beaucoup plus élevé, la Pologne c'est encore plus élevé. En fait, plus vous vous rapprochez de la Russie, plus c'est élevé, et donc plus l'exercice est difficile pour ces pays de l'Est européen.
Vous avez parlé d'un bouclier, d'un maintien de ce bouclier donc à la fois pour les acheteurs, ça vous nous le confirmez ce matin,
voilà.
C'est-à-dire que les acheteurs peuvent être sûrs, quand ils achètent leur gaz plus cher aujourd'hui, de le revendre plus cher demain, vous payerez la différence.
De plutôt, s'ils le revendent moins cher demain, nous paierons la différence.
Est-ce que le bouclier sera aussi maintenu le plus longtemps possible pour les particuliers?
Alors, la Première Ministre a annoncé une mesure technique qui est la prolongation du bouclier sur le gaz à compter du 30 juin. Vous savez que le décret ou l'arrêté ne prévoyait que jusqu'au 30 juin ce bouclier sur le gaz. Et là encore, ça sera au projet de loi sur le pouvoir d'achat de définir les conditions d'une prolongation jusqu'à la fin
c'est
d'année.
C'est-à-dire que la base n'est plus dans votre camp, mais dans celui des oppositions?
C'est aussi dans le camp de la majorité relative dont nous disposons. Nous avons évidemment des propositions à faire sur ce sujet-là. Notre objectif, comme depuis le début de cette crise, est de protéger le pouvoir d'achat des Français.
Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue préciser tout cela à ce micro ce matin sur RMC. Vous êtes ministre de la Transition énergétique. Il est 7h50.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.
À suivre, 4 mois après le début de la guerre en Ukraine, le pays est officiellement candidat pour adhérer à l'Union européenne. Dans les faits, qu'est-ce que ça change? Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h53 sur RMC, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les dirigeants européens ont accordé hier soir à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. C'est une décision rapide qui intervient moins de 4 mois après la demande ukrainienne. Ça ne veut pas dire pour autant que l'adhésion, c'est pour demain.
Non. Alors, souvenons-nous d'abord, le 24 février dernier, l'impensable était en train d'arriver. La Russie bombardait et envahissait l'Ukraine. Le président Zelensky était une cible prioritaire. Il a commencé par se cacher pendant quelques jours dans son palais. Et puis, au bout de 4 jours, il a pris une initiative importante. C'était le 28 février, dans une de ses premières vidéos en t-shirt. Il a demandé que son pays bénéficie d'une procédure spéciale pour adhérer à l'Union européenne. Quand on se souvient de l'état de sidération dans lequel se trouvait l'Ukraine ce 28 février, eh bien, cette demande d'adhésion était clairement un appel à l'aide. Elle signifiait « Nous sommes européens, nous sommes attaqués, ne nous abandonnez pas ». Ce qui s'est passé hier soir, bien, c'est que les dirigeants européens ont répondu à cet appel à l'aide du 28 février. Ils ont accordé à l'unanimité le statut de pays candidat à l'Ukraine.
Est-ce que c'est une procédure spéciale, comme le demandait le président ukrainien?
Alors, c'est en tout cas une procédure spécialement rapide, hein, puisque la demande officielle date du mois de mars. La réponse positive est donc intervenue en moins de 3 mois. Ça n'était jamais arrivé d'aller si vite. La Serbie, par exemple, avait attendu 3 ans, au lieu de 3 mois, pour franchir cette même étape. Mais la procédure spéciale va maintenant s'arrêter là. Les Ukrainiens ne vont pas bénéficier d'une adhésion express. Ils vont entamer à partir d'aujourd'hui un très long processus de négociation avec l'Europe. On va ouvrir des chapitres un par un, chapitre économie, chapitre état de droit, indépendance de la justice, corruption. L'Europe va poser des questions, l'Ukraine va y répondre, l'Europe à ce moment-là va poser d'autres questions et l'Europe y répondra de nouveau. Avec les derniers pays entrants, on a signé ainsi des contrats de plus de 100 000 pages. Tout ça est assez interminable. On estime que l'Ukraine ne peut pas espérer devenir un pays membre de l'Union avant 15 ou 20 ans. C'est donc une perspective pour les années 2040.
Pour les années 2040 et sans aucune certitude de toute façon d'aller au bout du processus.
Non, parlez-en aux Turcs. Ils ont demandé à adhérer à l'Europe en 1987. 12 ans après, ils ont obtenu le statut de candidat. Les négociations ont commencé encore 6 ans après et aujourd'hui, elles n'ont toujours pas abouti. 35 ans après cette première demande, les Turcs ont fini par comprendre qu'on se moquait d'eux. L'arrivée au pouvoir de l'autoritaire Erdogan a fini d'enterrer le projet, même si officiellement, aujourd'hui, la Turquie est toujours candidate.
Le processus n'est donc pas rompu. Ce processus, il a été plus facile pour les anciens pays de l'Est.
Un peu plus facile, oui. Après la chute du mur de Berlin, l'Europe a voulu accueillir et amarrer à l'Europe toutes les anciens satellites de l'URSS, la Pologne, la République tchèque, les Pays-Baltes, la Hongrie, entre autres. 10 pays ont donc rejoint l'Europe grâce à cette procédure qu'on a voulu à l'époque la plus rapide possible. Eh bien, malgré tout, malgré cette procédure rapide, ça a pris tout de même 15 ans, puisque ce n'est qu'en 2004 que ces pays ont rejoint l'Union.
Et pour l'Europe, que signifierait l'adhésion de l'Ukraine?
Alors, l'Ukraine, ça deviendrait le plus grand pays de l'Union européenne en termes de superficie et le 5e en termes de population avec 44 millions d'habitants. Ce serait surtout l'arrivée d'un pays beaucoup plus pauvre que les plus pauvres de l'Europe actuelle, quelle que soit la durée et les conséquences de la guerre. Ce serait enfin sans doute le 31e ou le 32e membre de l'Union, puisque nous sommes pour l'instant 27, mais qu'il y a déjà un processus d'adhésion qui est lancé pour la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine du Nord. D'ici là, l'Europe aura donc certainement beaucoup changé. Les règles actuelles ne fonctionneront plus. On ne sait pas dans quel état sera l'Europe dans ces années, mais il nous reste 15 ou 20 ans pour y penser.
Et puis on ne sait pas aussi dans quel état sera l'Ukraine, évidemment, qui elle-même aura bien sûr évolué d'ici là. Il est 7h57, vous restez bien avec nous dans un instant. Un point complet sur la météo et sur l'actualité avec le journal de Céline Kahneman. À tout de suite.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.